À quelques pas de là, au pont des amoureux, un jeune homme en émoi devant cette fleur de mai la dévore des yeux. Il imagine la scène, un sourire, une étreinte. Mademoiselle, je vous aime, le monde est fait pour nous, suivez-moi, n'ayez crainte. Ils s'en iraient tous deux, bras dessus, bras dessous. Voyez-vous mon amour, je n'ai qu'un cœur pour deux, moi je n'ai pas de sous. Je vous prends sous mon aile, suivez-moi, voulez-vous. Allons refaire le monde. Il ne le fera pas. Quand bien même elle attend, coutume n'est pas aux femmes de faire le premier pas. Quand bien même il avance, le destin attendra. Ainsi est fait.
Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'accueillir nos invités à cette table ronde que nous avons intitulée « La radio, un outil à développer à l'école ». Table ronde organisée dans le cadre de cette année anniversaire des 25 ans d'existence du LP2I. Alors, je voudrais saluer M. Jean-Louis Durpère, inspecteur général de l'éducation nationale. M. Éric Baumann, qui vient d'animer une conférence, un universitaire qui vient d'animer une conférence sur un siècle de radio. M. Éric Schweitzer du Clémy National. Madame Anne Debois, qui est coordonnatrice académique du Clémy. Monsieur Éric Bonneau, formateur radio Clémy. Madame Danielle Tisserand de Radio Pulsar. Monsieur Romain Rimbert de Radio Arc-en-Ciel. Monsieur Pascal Carré de France Bleu Poitou. Madame Evelyne Peignelin, chef du service vie lycéenne à la région Poitou-Charentes. Monsieur Laurent Cardona, ancien élève du LP2I, maintenant professeur des écoles et qui utilise la radio avec ses élèves. Je remercie bien évidemment Hélène Pommier d'animer ce plateau radio sous la direction technique de notre animateur culturel Walter Puyer, qui est assisté des élèves de l'ACF On Air. Et cette table ronde se déroule en présence de Monsieur Bianchiotto, ancien recteur de l'Académie de Poitiers, qui était recteur au moment de l'ouverture du lycée pilote.
Merci Madame Aziari d'avoir ouvert cette table ronde qui a lieu donc à l'occasion des 25 ans de radio au LP2I. Alors la table ronde va se diviser en trois temps, on fera quelques changements plateau entre ces trois moments. Et dans un premier temps, on va aborder la dimension institutionnelle de la radio et je vais donner la parole aux différents intervenants. Ensuite, on parlera des partenaires, des partenariats possibles. Clémy, qui est déjà là au moment de l'institution, mais on en reparlera tout à l'heure. Et puis ensuite, dans un troisième temps, nous aurons des témoignages d'utilisation de la radio dans le cadre scolaire, que ce soit de l'école jusqu'à l'université. Alors, dans un premier temps, Monsieur Durpère, Madame Peignelin et puis nos deux représentants Clémy, j'ai envie de vous demander quel est votre parcours pédagogique et radiophonique, et puis on abordera les questions que je vous avais posées par mail, ne vous inquiétez pas. Mais monsieur Durpère, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rapport entre la pédagogie et la radio selon vous, là, comme ça? Je vous prends un peu de cours? Non, je ne crois pas.
Je pense que... Moi, j'aurais presque envie d'élargir assez rapidement la préoccupation ou le sujet à l'ensemble des médias, parce que je crois que la radio est un outil possible, un vecteur possible, mais la question qui moi me semble la plus intéressante, c'est la question générale de l'éducation aux médias aujourd'hui de tous les élèves. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de question plus urgente que celle de traiter de cette éducation aux médias et à l'information. On vit dans un monde de l'information, c'est banalité que de le dire. Comment l'école se saisit-elle des nouveaux moyens de communication aujourd'hui pour que les élèves soient informés ? Comprendre l'information aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus difficile maintenant qu'autrefois parce que l'information est omniprésente. Donc il faut utiliser, à mon avis, toutes les possibilités qu'on peut avoir. Et je pense que dans la démarche, qui est celle initiée par le Clémy en particulier, il y a l'idée d'activité de l'élève Alors aujourd'hui, c'est des adultes qui parlent, mais je sais qu'il y a des élèves qui sont aux manettes. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des situations de mise en activité des élèves. Et donc, moi, je pense que tout ce qui va dans ce sens-là, des moyens modernes, et aujourd'hui, c'est une web radio, donc je pense que c'est extrêmement important pour aider à comprendre le monde et faire que les élèves soient des acteurs de l'information, des producteurs de l'information, des gens qui comprennent ce monde de l'information. Voilà ce que j'ai envie de dire en première approche.
Ils viendront prendre la parole tout à l'heure. Éric Schweitzer du Clémy, je me permets de vous renvoyer tout de suite la balle. On parlait de parcours pédagogique et radiophonique. Vous pouvez reprendre sur ça ou rebondir sur ce que dit Monsieur Durper.
Voilà, moi, la radio au milieu scolaire, je l'ai découvert en tant qu'enseignant spécialisé, donc en travaillant avec des enfants présentant des troubles du comportement. Et donc, j'étais amené à trouver des détours pédagogiques pour réamener ces élèves vers la pratique, en particulier de la langue française. Donc voilà, donc c'est à cette occasion-là que je me suis intéressé à la radio. Et donc, avec des activités, effectivement, de production, de compréhension des médias, et puis aussi des activités pédagogiques, là, purement centrées autour des compétences, autour de la langue française et...
D'accord, merci pour cette petite introduction, Madame Pénulin. La radio à l'école, vous en tant que chef de service de la vie lycéenne, on sait combien la région Poitou-Charentes est engagée dans cette activité culturelle et médiatique. Est-ce que vous pouvez nous dire, je vous laisse volontairement quelque chose d'ouvert pour commencer, d'accord, parce que je sais que les gens ont aussi des choses à dire et que je vais pas
forcément... Il y aura peut-être des choses plus importantes sur le plan du soutien de la région sur la deuxième table ronde.
Mais oui, bien sûr, oui,
moi,
sur le partenariat.
Moi, j'ai découvert, si vous voulez, la radio personnellement dans le cadre d'action justement lycéenne. Et les premières idées de radio qui ont émané des jeunes venaient au moment des années 2005-2006 à la création du budget participatif des lycées. Et là, les jeunes nous expliquaient que pour eux, c'était accéder aux médias d'une façon peut-être un peu plus parlante pour eux, plus dynamique, et qui leur permettait même d'ailleurs de reprendre une confiance en soi et de travailler sur eux-mêmes. Souvent, les jeunes qui sont en difficulté pour s'exprimer devant beaucoup de personnes se trouvent presque plus rassurés derrière un micro tout seul et à parler à beaucoup de monde, mais en étant un peu protégés et en se laissant libres d'expression. Et on a trouvé cette idée assez intéressante. Ils ont vraiment été vers les médias déjà à ce niveau-là. Après, il y a eu les fanzines, il y a eu un certain nombre de choses qui leur parlaient beaucoup plus que les médias traditionnels. Mais pour nous, c'était déjà un premier point pour rentrer dans l'éducation aux médias, voilà, au niveau de la région.
Merci, Madame Pénulin. Anne Debois, coordonnatrice Clémy pour le Poitou-Charentes.
Alors, moi, j'ai découvert la radio avec le Clémy, en fait, parce que je suis partie de la presse écrite imprimée. Que j'ai pratiqué depuis que je suis enseignante. Et j'ai trouvé dans la radio une manière de faire écrire les élèves qui n'y arrivaient pas ou n'en avaient pas envie. C'était un élément moteur très important pour cela. Et je l'ai pratiqué en particulier dans un collège ZEP, dans lequel les élèves qui participaient au club radio étaient des élèves en difficulté de comportement et d'écriture et qui ont trouvé dans ce média non seulement la capacité à prendre la parole, à s'organiser, mais également la capacité à trouver une place, soit à la technique, soit dans l'écrit, soit dans la prise de parole, qui était très importante. Et je reviens sur cette idée de prendre confiance en soi, d'être dans un contexte de réussite. Ça me semble très, très important et c'est un média particulièrement intéressant pour cela.
Monsieur Durper, vous voulez rajouter quelque chose ?
Peut-être rebondir parce qu'on est aujourd'hui dans le cadre de la célébration des 25 ans du lycée pilote innovant. Et donc, mettre un petit point d'histoire. La radio, on l'a dit dans une table ronde précédente, elle s'est développée dans un contexte national d'émergence des radios libres. Et la radio scolaire est aussi née dans cette foulée-là. Moi, je me souviens avoir travaillé avant la naissance du lycée pilote innovant, mais déjà dans l'action culturelle dans ce département et dans l'académie. Et il y avait déjà quelques radios qui émergeaient, notamment grâce à des actions de la Fédération des œuvres laïques dans ce département, la FOL. Et puis je me souviens aussi du côté de La Rochelle, je crois que c'était le collège d'Étré ou Châtelaillon, qui avait une radio. Le problème, je trouve, c'est que ce média ne s'est pas beaucoup développé en milieu scolaire. On a vu une explosion dans la société, alors que d'autres ont été davantage soutenus. Alors peut-être que... faudrait d'interroger peut-être le Clémy, parce que le Clémy a fait des actions assez emblématiques, fortes, autour de la semaine de la presse et autour de, des choses plus, plus imprimées. Maintenant, on se tourne vers des choses plus, plus numériques, la semaine de la presse et des médias numériques. Et il faudrait s'interroger sur effectivement pourquoi la radio ne s'est pas beaucoup développée. Il y a bien sûr, il faudrait citer aussi en premier la radio de ce lycée qui est parfaitement... qui a vécu dans la durée, qui a son histoire. Je crois qu'il y en avait une aussi du côté de Louis Armand.
Oui, RMZ, dont on a des représentants ici. Hein.
Voilà, donc on a. Mais on voilà, vous voyez, dans l'histoire, moi qui ai un peu la mémoire de ce parcours avec quelques 25 ans de recul, c'est pas des choses qui ont émergé. Il faudrait s'interroger sur pourquoi ce vecteur est moins reçu peut-être que d'autres, alors qu'on écoute la radio régulièrement. Moi, je me pose la question sans avoir de réponse particulière.
Moi, je crois qu'il y a éventuellement, je pense qu'il y a aussi une représentation de la radio et puis donc peut-être de la place de l'oral dans le système éducatif. Peut-être que là, il y a une question qui était à poser. En fait, même si la radio est un média d'abord finalement qui a une forte place. Qui laisse une forte place à l'écrit, puisqu'on est
oui, paradoxalement, c'est effectivement un média
dans l'écrit oralisé, mais je crois qu'il y a une représentation comme ça qui est un média de l'oral en fait, et donc voilà, je pense que une des explications est là. Et d'ailleurs, c'est historiquement, c'est beaucoup effectivement dans les ZEP, etc., que les radios se sont installées dans les écoles, enfin dans les écoles et les collèges. Pour aider à la mise en place justement de tout ce travail sur la langue. Mmh. Voilà.
Voilà. Je peux ajouter juste une chose. Je pense que la radio va se développer, enfin, en tout cas au Clémy à Poitiers, on essaie de la développer depuis 2 ans, mmh. et c'est facilité par l'aspect numérique.
Aujourd'hui. L'évolution numérique.
C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de diffuser sur les ondes hertziennes pour pouvoir diffuser des sons et les propager au monde entier en quelque sorte.
L'évolution numérique va faciliter.
Donc voilà, je crois qu'on est de nouveau dans une phase où la radio va se développer.
Oui. Alors, la question qui nous réunissait dans cette première partie, merci pour cette introduction, c'est quel rôle et place des institutions pour développer la radio à l'école ? Et assez simplement, naïvement peut-être, on s'est posé la question en la préparant de la place de la radio dans les programmes scolaires. Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole sur cette question ? Est-ce que les programmes scolaires, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, voire à l'université, laissent une place importante ? Alors, c'est vrai qu'on peut ouvrir aux médias, mais à la radio plus particulièrement peut-être.
La place de l'éducation aux médias est quand même réaffirmée régulièrement dans les programmes scolaires de tous les niveaux. Dans les nouveaux programmes du lycée, ça a été particulièrement réaffirmé, hein, puisqu'il est presque préconisé l'utilisation de la radio directement dans les lycées. Quoi. Mm-hmm. Ouais. Et puis on a quand même un média qui nous permet de travailler différentes compétences. Quoi, hein. Enfin, la compétence 1, la compétence 4,
du socle commun,
du socle commun de collège, de collège et de l'école primaire. Voilà.
À ma connaissance, les programmes ne centrent pas sur un outil particulier, voilà. Donc il est difficile de dire, et d'ailleurs on ne voit pas pourquoi, sauf pour des raisons effectivement pédagogiques de travailler sur l'oral, ce qui est tout à fait important, mais les programmes ne sont pas si précis que ça. C'est déjà très difficile d'inclure l'éducation aux médias en général au programme disciplinaire. On voit quand même la concurrence entre différentes approches. La difficulté de notre école, c'est quand même d'être une école qui est centrée sur les disciplines. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde, il a besoin d'ouverture et justement d'interdisciplinarité. Et l'éducation à médias est vraiment le lieu où on peut faire cette interdisciplinarité. Et donc, à travers l'éducation aux médias, on ne touche pas que de l'acculturation à des médias existants. On touche aux fondamentaux de l'action de formation, c'est-à-dire d'abord la langue, la maîtrise de la langue, l'expression, qu'elle soit écrite ou orale, c'est bien de ça dont il s'agit. Les programmes sont depuis maintenant, je dirais une petite dizaine d'années, ils sont très empreints d'éducation aux médias. Moi, je me suis appliqué avec quelques collègues à faire un document qui s'appelle Culture de l'information et discipline d'enseignement, où on a recensé disciplines depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat, dans toutes les disciplines, la place de l'éducation aux médias. Ça fait une brochette de 200 pages. Ça veut dire qu'il y a non seulement des instructions en termes de savoir, des préconisations, mais aussi des incitations à des démarches pédagogiques qui, encore une fois, sont toujours des démarches actives. Donc il faut voir maintenant comment on peut pousser encore davantage la refondation de l'école qui est en cours. Les textes qui sont issus de la concertation ont posé que l'éducation aux médias et à l'information doivent être au même niveau que les disciplines. Alors, ça n'a pas été repris exactement comme ça dans le projet de loi, mais ce projet de loi, il a 11 articles sur 40 qui portent sur le numérique, et dont plusieurs portent sur cette éducation aux médias. Et alors ça varie, éducation aux médias, éducation à l'information, il faut peut-être clarifier le langage. Souvent on parle de la littératie, ça veut bien dire qu'on parle d'acquisition de compétences d'écriture et de lecture fonctionnelle, c'est-à-dire en situation. C'est ça la littératie, et on parle de l'information literacy. Donc c'est un peu un terme anglo-saxon, mais c'est aussi un mouvement, on n'est pas isolé, on est sur un mouvement international. Je pense que l'éducation aux médias, c'est pas du tout... Alors le CLEMI a sa dynamique depuis 1982, mais dans les autres pays, notamment anglo-saxons, on a une vraie dynamique d'éducation aux médias.
En termes de formation initiale ou continue des enseignants, Anne Debois, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, nous donner quelques exemples de stages proposés par le CLEMI? Je sais qu'il y en a eu un récemment. Peut-être qu'on peut donner un exemple très concret.
Alors dans les stages que nous proposons, alors là on a eu un premier stage autour de la radio à proprement parler. La radio comme outil pour l'oral de l'histoire des arts, c'était l'intitulé du stage. Et en fait, on a mis les collègues véritablement en situation, parce que je reprends l'idée de M. Durper, qui me semble essentielle et qui est essentielle dans les pratiques du CLEMI, c'est-à-dire on met les gens en activité. On n'est pas simplement des conférenciers, on ne donne pas simplement des pistes théoriques ou didactiques, mais on est vraiment sur de la pédagogie et de la pédagogie en action. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui font que les enseignants font assez peu de radio concrètement, parce qu'en fait, on a une habitude de travail en classe, donc disciplinaire, avec un format horaire assez contraint. Et effectivement, il est plus facile de travailler sur des écrits imprimés que l'on distribue, que l'on fait lire et que l'on commente, que de mettre les élèves en pratique, où on sait que ça peut déborder des heures et on est obligé d'aller dans une autre salle que celle qu'on a d'habitude, etc. Voilà. Donc en tout cas, pour revenir sur le stage qu'on a offert donc aux enseignants de l'académie, donc ils étaient 20 à venir, et je tiens à préciser que on était très heureux de les accueillir parce que vraiment ils ont pris, enfin ils étaient extrêmement volontaires et motivés. Ils venaient de toutes les disciplines, du lycée professionnel, du lycée et du collège. On les a donc mis en situation de fabriquer une petite chronique radiophonique avec un montage radio, avec prise de son. On a abordé la question des droits, on a abordé la question de la diffusion. Et les enseignants qui étaient là sont ressortis d'abord très heureux d'avoir pratiqué et beaucoup plus enclins à faire pratiquer leurs élèves maintenant qu'ils avaient vu eux-mêmes ce que ça impliquait en fait de faire de la radio.
Éric Schweitzer, oui, du CLEMI.
Depuis quelques années, en fait, au niveau du CLEMI national, l'intention de former un réseau de référents sur toutes les académies. Donc il y a des formations qui sont organisées et qui regroupent des référents. Et ensuite, ces référents organisent eux-mêmes des formations dans les académies. Ensuite, on essaye de mettre en place aussi un réseau de serveurs en streaming qui permet aux établissements de diffuser facilement. Donc c'est des choses qui sont faites d'une manière générale avec l'émission TIS ou les CRDP, et donc pour avoir des serveurs qui permettent aux établissements en se connectant simplement de pouvoir diffuser.
C'est ce qu'on appelle la technologie IceCast.
La technologie IceCast, pardon. Mm-hmm. Et d'ailleurs en fait elles sont on est en train actuellement d'essayer de développer même le multicasting qui permettrait d'avoir des décrochages, c'est-à-dire de pouvoir faire des émissions de plusieurs lieux différents en même temps. Donc il y a une expérience qui va être menée au cours des rencontres de l'ORM à Marseille, avec un décrochage vers l'Académie d'Orléans-Tours, etc. De pouvoir collaborer en fait sur des lieux différents.
D'accord. Voilà. Et dans l'Académie de Poitiers, il y a plusieurs enseignants qui utilisent cette technologie. Même si on n'a plus de serveur IceCast dans l'académie, on utilise le serveur de la Cité des Sciences et de l'Industrie, voire peut-être éventuellement celui d'Orléans-Tours. Et donc 3 ou 4 enseignants utilisent cette technologie pour diffuser relativement régulièrement des émissions en direct, diffusées en direct sur Internet.
Monsieur Durper ?
Oui, ajouter du point de vue institutionnel que, bon, effectivement, il y a des stages nationaux réguliers. Chaque année, il y a un stage DGESCO et directeur général d'enseignement scolaire et CLEMI et inspecteur général et associé. Et donc, très prochainement, c'est-à-dire au mois de mai, une conférence nationale va avoir lieu à Lyon avec l'Institut français d'éducation sur le thème culture numérique, éducation aux médias et à l'information. Il va regrouper environ 350 personnes. On la prépare avec la directrice du CLEMI et puis la directrice et directrice adjointe du CLEMI. Je pense que ce sera un lieu aussi de réflexion sur ce que ça apporte, cette éducation, et sur sa nécessité. Parce que tout le monde n'est pas encore convaincu de l'importance de cette éducation à l'information et même la compréhension même des relations entre l'éducation aux médias et les disciplines, tout le monde n'en est pas convaincu. Certaines le sont, je pense par exemple aux sciences de la vie et de la terre, on comprend bien dans cette discipline que l'information, elle est vraiment fondamentale pour pouvoir faire des acquisitions réelles de savoir et de savoir-faire dans cette discipline. Il y a des allers-retours entre l'information, on analyse l'information qu'on reçoit. Mais ce n'est pas le cas de toutes les disciplines. Actuellement,
vous savez, au LP2I, il y a même des profs de physique qui font faire des émissions de radio. Donc...
On est rassurés. On est rassurés.
Madame Pénulin, si on peut se parler aujourd'hui ici en direct dans un lycée avec une radio scolaire, c'est quand même grâce à la région. C'est grâce à vous, Madame Pénulin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la politique culturelle envers les radios chef de service à la vie lycéenne.
Tout à fait. Donc, pour que vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'idée de la radio émanant directement des lycéens, elle est arrivée avec le budget participatif parce que les jeunes sont exprimés et ont eu un désir de fonder des radios, de créer des radios. On a commencé à accompagner, c'est vrai, ces radios sur le plan financier parce que sur le plan d'une radio très classique, c'est plutôt un investissement important. Et ensuite, on a travaillé aussi beaucoup en partenariat avec le rectorat et le CLEMI. On a mis en place d'autres actions. On recense à peu près maintenant une douzaine de radios dans les lycées, entre les web radios et les autres radios. Mais la région n'accompagne pas que la radio, que la création de la radio, mais beaucoup de projets qui sont autour de la radio, à savoir des découvertes de studios, la sensibilisation à l'animation radiographique, éventuellement aussi le fonctionnement d'une radio. Nous, on incite beaucoup les jeunes qui veulent se lancer dans une création de radio de partir sur une formation, une sensibilisation pour savoir si vraiment ils sont aptes, s'ils peuvent aller plus loin. Et on a aussi beaucoup donc cette animation de radio, cette création qui est relayée par nos collègues animateurs culturels, c'est les collègues qui ont été mis en place dans les lycées et qui aussi incluent la notion radiographique, radiophonique dans leurs événements. On a des festivals qui sont organisés, qui sont énormes sur les courts-métrages et ils incluent dans ces animations, dans ces actions, la radio. Idem sur des grosses événements de la région, la Créateuf qui est une très grosse action culturelle de valorisation des talents des jeunes, il y a une radio qui est animée par les jeunes pendant tout l'événement de la journée. Voilà, c'est quelque chose qui est relayé et qui est toujours dans les... maintenant, qui est devenu un média à part entière et très utilisé par les jeunes, très aussi souhaité. Et on a évidemment d'autres actions sur les médias, sur les journalismes, beaucoup de fanzines, beaucoup de blogs, beaucoup de journaux. On a eu une opération ensemble qui s'appelait Actuel, où on mettait à disposition des journaux à destination des jeunes dans les maisons des lycéens, des foyers. Voilà, ce sont des sommes énormes.